C'est la revue de presse de Radio Classique. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour François, bonjour à tous.
Dans les journaux ce matin, l'incertitude sur la situation au Proche-Orient.
Hier, l'État hébreu a présenté un projet de plan d'après-guerre, mais cette après-guerre n'est pas pour tout de suite, si l'on en croit la une de Libération. Avec ce titre, pourquoi la guerre va durer? En chapeau, les craintes d'un embrasement régional sont plus fortes que jamais, quelques jours après l'élimination à Beyrouth du numéro 2 du Hamas et un attentat en Iran. Un alarmisme qui est nuancé dans deux articles parus dans Le Monde, datés d'aujourd'hui, et surtout dans l'Opinion, avec sa une qui se demande le contraire, pourquoi le Proche-Orient ne s'embrase pas? Afin de répondre à cette question, le dessinateur CAC n'hésite pas à citer les bronzés font du ski. Et oui, on y voit deux personnages de dos contempler les bombes qui tombent sur Gaza, barbe et turban. Ils représentent le Hezbollah et l'Iran. « Je ne sais pas ce qui nous retient de casser la gueule à Israël », demande le premier. « La trouille, non ?» répond le second. « Ouais, ça doit être ça ». Dit autrement par Jean-Dominique Merchet, les alliés du Hamas ont fait jusqu'à présent le service minimum. Peu avares de propos vengeurs, ils se gardent de trop s'impliquer, conscients d'avoir beaucoup à perdre. Au Liban, le Hezbollah redoute l'effritement de son pouvoir local. En Iran, le régime n'est pas dupe de sa faiblesse militaire. Le tout sous contrôle des États-Unis, dont la politique est qualifiée de particulièrement avisée par notre confrère. D'une part, ses moyens militaires dissuadent l'Iran et ses alliés d'entrer dans le conflit. D'autre part, elle met publiquement une pression suffisante sur l'État hébreu dans le domaine humanitaire pour se distinguer des extrémistes au pouvoir à Jérusalem. Une ligne qui continuera à être défendue aujourd'hui par Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui se rend en Israël avant une tournée dans 5 pays arabes.
Face à la situation internationale complexe, un homme est mis en avant par les journaux pour nous aider à comprendre.
Giuliano da Empoli, l'essayiste italo-suisse, est interviewé dans le numéro des Échos week-end consacré à ce qui nous attend en 2024. Et il fait la une de l'Obs, cheveux noirs, barbe blanche et le regard rassurant de celui qui dit « La situation est grave, mais ça va aller ». Il faut dire que son essai « Les ingénieurs du chaos » a été réédité en poche il y a quelques mois, de quoi conforter un peu plus le qualificatif de visionnaire souvent accolé à celui qui publiait au printemps 2022 le mage du Kremlin sur l'ascension de Vladimir Poutine. Dans « Les ingénieurs du chaos », il décrit comment les nationaux populistes utilisent les réseaux sociaux et les fausses vérités pour imposer leurs idées et arriver au pouvoir. Un livre écrit en 2019 dont la thèse s'applique encore mieux aujourd'hui, estime Giuliano da Empoli dans l'Obs. Ou comment certains adaptent la politique au fonctionnement des plateformes numériques, des plateformes qui ne s'intéressent ni au vrai ni au faux, mais à l'engagement, c'est-à-dire les mentions j'aime, les partages. Ces responsables politiques exploitent un sentiment de perte de contrôle sur nos vies et mobilisent la colère plutôt que la peur. L'essayiste donne l'exemple de la campagne pour le Brexit avec des défenseurs des animaux et des chasseurs qui ont reçu sur Facebook des messages contraires sur la politique européenne en faveur des animaux. Ces ingénieurs prospèrent sur l'immigration, les politiques sanitaires ou la crise écologique. Et certains médias traditionnels adaptent désormais leur discours à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme Cyril Hanouna chez nous. Giuliano da Empoli termine tout de même l'entretien sur une note d'espoir. Les démocraties tiennent et le nouveau règlement européen sur les réseaux sociaux pourrait permettre de les rendre plus vertueux.
Alors ça, c'est pour la théorie. On retrouve deux exemples de ces ingénieurs du chaos dans la presse. Le premier, c'est justement Cyril Hanouna.
Oui, car plusieurs journaux se font l'écho d'un petit livre qui paraît aujourd'hui « Touche pas à mon peuple, au seuil ». La chercheuse du CNRS Claire Sécaille décrypte l'émission phare de C8 « Touche pas à mon poste » et comment elle est devenue politique. Citation mise en exergue par l'Opinion, Hanouna est devenu un allié objectif de l'extrême droite, mais à l'origine, son but est le buzz. Il n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Il est donc prêt à endosser le projet idéologique réactionnaire de Vincent Bolloré, selon l'historienne des médias qui développe dans La Croix Hebdo. J'identifie trois caractéristiques de ce populisme hanounesque. En premier lieu, une défiance assumée envers les élites intellectuelles qui n'auraient que du mépris pour le peuple, entre guillemets, et son émission. Ensuite, une forme de populisme pénal avec une exploitation du moindre fait divers. Enfin, la mise en avant d'un anti-parlementarisme ordinaire apparu dans l'émission à l'automne 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. Pas de quoi empêcher certaines personnalités politiques de se rendre dans l'émission, souligne Le Monde, au prétexte qu'elle s'y adresse à un public populaire, pas ou peu diplômé, plus jeune que les autres émissions. Elles ne font en réalité, ces personnalités politiques, que flatter un monstre qui banalise la charge contre les institutions de la démocratie représentative, un monstre qui réussit in fine à les croquer avec leur assentiment. Tout cela devant presque 2 millions de personnes qui regardent quotidiennement l'animateur. Se taire ou fermer les yeux, c'est ajouté à la faillite morale collective de notre époque, dont la trajectoire de Cyril Hanouna n'est que l'un des symptômes, conclut la chercheuse.
Augustin, le second de ces ingénieurs du chaos dans la presse ce matin est un homme politique britannique.
Nigel Farage, en page 10 du Figaro, cheveux gris, pantalon rouge et chemise d'aventurier, il tient à bout de bras des bûches devant un décor luxuriant, un décor de jungle. Le regard affirmé de celui qui dit « la situation est grave et je vais en profiter ». Défenseur acharné du Brexit, il a milité au UKIP, le parti nationaliste, jusqu'en 2018, avant de disparaître ces dernières années de la vie politique britannique. À la fin de l'année dernière, il est allé un peu plus loin dans la complaisance des hommes politiques envers la télé poubelle. Car cette photo est issue de sa participation à l'émission de télé-réalité « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Des personnes plus ou moins connues doivent se débrouiller dans la jungle australienne en réussissant des épreuves. Afin de préserver vos estomacs à l'heure du petit déjeuner, je ne cite qu'un seul des trois exemples donnés par le Figaro, avoir la tête enfermée dans une boîte pleine de serpents. Évidemment, Nigel Farage est soupçonné d'arrière-pensée politique. Il compterait exploiter ce retour sous les projecteurs et sa bonne troisième place dans l'émission. Pourquoi pas un rapprochement avec le Parti conservateur, dont il se verrait bien dirigeant en 2026. Bon, tout est au conditionnel dans cet article, mais le Figaro souligne que ce rapprochement serait un nouveau pas vers la droitisation dure du Parti conservateur. Un article publié quelques jours après un sondage. Aujourd'hui, seul un Britannique sur quatre estime que le Brexit était une bonne chose.
Waouh ! Vous nous emmenez sur l'océan, Augustin, pour terminer.
Oui, on passe des ingénieurs du chaos à un ingénieur tout court, Tom Laperche, 26 ans, portrait dans le Figaro et en der de Libé. Il fait partie des six marins qui se lancent dans une grande première dimanche, un tour du monde en solitaire sur un trimaran volant. Un défi un peu fou sur des monstres qui peuvent atteindre 50 nœuds, soit 92 km/h. Ce Breton navigue depuis ses 5 ans. Il s'est très vite fait repérer par les grands noms de ce sport, vainqueur de la solitaire du Figaro 2022. « Je ne me sens pas un super-héros, dit-il, simplement un peu différent des gens de mon âge. » Et oui, un tour du monde loin du chaos, eh bien, ça ferait peut-être rêver certains, mais on n'y échappe pas à ce chaos. Tom Laperche se fera envoyer une revue de presse pendant son périple, peut-être celle de Radio Classique. En tout cas, celle-ci est désormais terminée.
Et elle est désormais disponible en podcast sur radioclassique.fr. Merci beaucoup, Augustin Lefebvre. Très bon week-end à vous. 8h38, Esprit Libre dans un instant avec Bruno Jeudy et Jean-Marie Collomb.